De frontières, nous allons parler ce soir. Frontières entre la maladie et la bonne santé. Frontières géographiques et politiques Israël-Palestine. Mémoire de territoire. Frontières poétiques et théâtrales. Comment parvenir à l'au-delà de la langue en inventant un nouvel art avec Pier Paolo Pasolini. Et comme chaque semaine, on va commencer en musique, mais c'est une petite virgule directement adressée à Stanislas Nordet, qui est un de nos invités ce soir, avec Revoir Paris, mais cette fois-ci interprété par Benjamin Biolay.
Studio Théâtre, Laura Adler, sur France Inter.
Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard, prendre un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers mes maisons, banlieue où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Ce n'est pas un rêve, c'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les pleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ces gens, tous ces braves gens de la Varenne et de nos gens. Bonjour la vie, bonjour mon vieux soleil, bonjour mamie. Bonjour l'automne vermeil, je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais, je suis qu'un petit français, rien qu'un enfant, tout simplement.
De moi-même,
oui.
C'est comme demander la définition de l'infini. Il y a un infini intérieur et un infini extérieur. Eh bien, quand je pense à moi-même, je pense à quelque chose d'infini. Pour vous, je suis une chose bien finie, mais pour moi, je suis infini. Je suis le miroir de l'infini extérieur. C'est impossible pour moi de me définir. Je pourrais inventer des slogans, des choses un peu drôles dans la conversation du salon, peut-être. Alors je pourrais rappeler une phrase qui dit Elsa Morante de moi. Elle dit que je suis un narcis qui a un amour erré pour soi-même. J'ajoute que j'ai aussi un amour malheureux pour le monde. Je pourrais dire peut-être que je suis un véritable diable, pas un faux diable comme Sanguinetti.
Nous venons d'entendre la voix de Pasolini, c'était en 1967, et auparavant, cette chanson qui vient ponctuer votre mise en scène, Stanislas Nordet, votre mise en scène d'Affabulation, et qui a commencé sa tournée il y a maintenant quelques mois et qu'on peut venir entendre en ce moment même au Théâtre de la Colline. Et ce qui est très frappant, c'est l'actualité de ce texte, la manière dont il nous est adressé à nous, spectateurs, dont il parle, ce texte, à différents niveaux de langage, à la fois de la violence sexuelle, de la supériorité de l'être féminin, de la cruauté des pères, de la violence des fils envers les pères, de la société de consommation. Comment avez-vous réussi à détricoter ce texte pour nous le restituer ?
Alors, comme disait lui-même Pasolini, il y a l'infini dans Pasolini. Hein, donc, quand on est face à ce texte, effectivement, c'est un texte qui est à la fois très simple et très ardu parce qu'il ouvre tellement de portes. Donc, dans le travail de mise en scène et dans le travail d'interprétation, il fallait avoir un geste qui soit très très généreux envers le public. Donc, on a vraiment travaillé à éclairer pour nous-mêmes déjà ce texte qui est un texte vraiment ardu quand on le lit pour la première fois. Et dans les pistes d'interprétation après, il était important d'aller vers le public sans être en même temps dans la vulgarisation du texte. Il fallait pas mâcher le travail au public et en même temps, il fallait essayer d'éclairer un maximum les pistes de regard. Donc les pistes scénographiques aussi ont été très très importantes pour ça, la scénographie inventée par Emmanuel Clolus. Et dans le jeu, je dirais, dans la manière d'engager les acteurs, le corps des acteurs, il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment dans une forme d'engagement et de surexposition. Il fallait que les corps se consument presque devant le public. Donc, on est parti un peu sur ces pistes-là pour tendre un pont, pour tendre une main au public, puisque le texte est à la fois extrêmement clair et en même temps profondément poétique, donc insondable et sans réponse. Mais c'est la force de Pasolini et la force de cet acte poétique avant tout. Jamais oublier que même le théâtre de Pasolini, c'est du théâtre, mais c'est avant tout un acte poétique.
Alors on pourrait dire que Affabulation, c'est l'histoire d'un couple un peu vieillissant, ultra riche, qui a un fils assez beau, sûr de lui, très séduisant. D'ailleurs, dans le personnage du fils, on peut peut-être retrouver des échos de Théorème, un peu, de ce film connu de Pier Paolo Pasolini, mais on voit bien que ça, c'est la trame initiale et que derrière cette espèce de grinçante comédie ultra-bourgeoise, eh bien, Pasolini va essayer de mettre en pièce l'idée même du théâtre. Pourquoi, selon vous ?
D'abord parce qu'il a un amour fou pour le théâtre en même temps qu'une haine absolue pour le conventionnel au théâtre. Donc il mêle ces deux choses-là. Il porte la fable très haut à l'image du théâtre grec, on peut dire. C'est très très lié comme ça à cette forme du théâtre grec. Et en même temps, il se méfie du théâtre. Donc c'est toujours ça avec Pasolini. Hein. Il est à la fois dans un fort amour pour l'objet dont il s'empare, pour le cinéma par exemple, et en même temps, il a une méfiance très grande, donc il renverse les codes constamment. Donc là, la pièce, par exemple, est sous l'égide et sous le regard de l'ombre de Sophocle. Donc il y a presque comme ça, c'est une figure tutélaire qui serait celle de Sophocle. Et en même temps, Jung, Freud apparaissent au milieu de la pièce pour être en même temps mis en pièce, plus ou moins. C'est-à-dire que c'est le principe de Pasolini de s'emparer, par exemple ici, du mythe d'Oedipe, et puis de quelques années avant Deleuze et Guattari, d'ailleurs, de le mettre en question, de l'interroger violemment, de dire que c'est pas suffisant, que c'est réducteur. Donc il joue avec tout ça. Pasolini était un homme qui ne cessait d'aller renifler tout ce qui s'inventait autour de lui, tout ce qui était profondément contemporain et en même temps était terriblement ancré dans le passé. Il arrêtait pas de dire qu'il était une force du passé, que il était resté en arrière, et en même temps il avait un regard extrêmement aigu sur tout ce qui s'inventait en art, en littérature, en linguistique, etc. au moment où il écrivait. Donc, je dirais que c'est la force de cette œuvre-là et de ces œuvres théâtrales-là, c'est que elles font totalement confiance au théâtre et en même temps, elles mettent totalement en danger l'idée de théâtre.
Alors, dans cette pièce, comme dans d'autres textes, il y a une manière de revisiter aujourd'hui l'œuvre de Pasolini, loin des clichés. Et là, je voudrais qu'on parle de la manière dont, dans sa langue, Pier Paolo Pasolini met en scène ce que peuvent représenter les figures féminines. Là, c'est particulièrement violent, au sens positif du terme, puisqu'il y a le personnage de la mère, il y a le personnage de la nécromancienne, il y a le personnage de la jeune fille, et ces trois figures-là sont comme des figures de d'altitude de la pensée, de pressentiment du destin humain. Elles écrasent les hommes.
Bah, en tout cas, la figure de la femme, la figure de la mère, dans toute l'œuvre de Pasolini, est première et présente. Il suffit de regarder Silvana Mangano, justement, dans Théorème,
ou Laura Beatty.
Ou Laura Beatty. C'est-à-dire qu'elle est vraiment.
Ou Maria Callas dans d'autres.
Ou la Callas. Ou la Magnani dans Mamma Roma. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est la boussole de Pasolini, évidemment, hein, le personnage de la femme. Il y a ce texte, d'ailleurs, que je conseille à tout le monde de lire, qui est un texte sublime, qui s'appelle C, qui est un poème de Pasolini, un grand poème qui a été traduit il y a quelques années et qui est une ode au sexe de la femme et à cet objet que Pasolini n'a jamais pu approcher réellement et qu'en même temps dont il regrette amèrement d'être si loin. Donc il y a toujours eu un rapport totalement paradoxal parce que effectivement les figures féminines prennent énormément de hauteur et même on pourrait dire que la figure de Terence Stamp dans Théorème c'est pas une figure masculine, c'est une figure entre le féminin
androgyne presque
et le masculin quoi. Donc oui, et dans son théâtre particulièrement, si dans son théâtre, je dirais que la figure de la femme est une figure qui troue littéralement toute la poétique dans Calderon par exemple, voilà le personnage de Rosa Ora. Donc voilà dans la représentation là, dans ce qu'on essaye d'en faire, en tout cas, on a essayé aussi de faire apparaître effectivement cette face importante de Pasolini qu'on a parfois complètement à tort traité de misogyne, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas. Hein. C'était quelqu'un qui avait justement un regard extrêmement. Je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est pas un féministe Pasolini, mais c'est quelqu'un qui tout d'un coup voit la. Il y a les femmes dans ces films échappent quand même à la représentation qu'on en a la plupart du temps, je trouve. C'est-à-dire elles sont plus proches de déesses, de figures tutélaires qui sont écrasantes et pas écrasantes en même temps parce que totalement inspirantes, sexuées et asexuées à la fois.
Alors Pasolini se joue des périodes, vous l'avez dit, il met en scène la tragédie antique alors que l'action se passe aujourd'hui. Il fait cohabiter des thèmes très hétérogènes, par exemple la destruction de la famille, c'est un des moteurs de cette pièce à Fabulation, la destruction et l'hypothèse de la lutte des classes, la dénonciation de l'ultralibéralisme, et puis aussi par moments des espèces de pépites qui vous tombent dessus, de phrases atomiques de poésie, par exemple l'été brûlant du désir, par exemple comme ça tombe dessus. Donc comment on interprète cette langue qui charrie des îlots de sens complètement différents?
Ben, d'abord, il faut avoir la conscience qu'on est face à un poème. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire
pour vous, c'est un seul bloc avec des personnages qui viennent sur le plateau.
Oui, il y a vraiment. Lui, il raconte qu'au moment où il écrit son théâtre, il voulait continuer à écrire de la poésie, mais qu'il n'arrivait plus à écrire de la poésie pure et qu'il avait besoin d'écrire de la poésie dialoguée. C'est comme ça qu'il raconte son passage au théâtre. Et puis il dit que parallèlement, il se met à relire tous les dialogues de Platon. Donc son théâtre est nourri à la fois de Platon et à la fois, je dirais, de sa foi profonde en la poésie. Donc il fait aucune concession au théâtre. Il est dans ce théâtre qu'il appelait lui-même théâtre de parole, c'est-à-dire un théâtre qui est dans une poésie concrète. Hein. C'est à la fois c'est du vers libre et en même temps c'est la poésie telle que l'écrivait Pasolini, puisqu'il pouvait écrire aussi bien sur un champ de maïs que sur le pape, que sur le génocide. C'est-à-dire qu'il était sans cesse dans un réel du regard du poète sur le monde. Donc quand on s'empare de cette parole-là en tant qu'acteur, on essaye d'être au plus proche, je dirais, du moment de l'écriture. Moi, c'est comme ça que je travaille toujours. Hein. J'essaye de voir comment, en tant qu'acteur, comment écrit le poète, que ce soit Pascal Rambert, que ce soit Falk Richter, que ce soit Pier Paolo Pasolini. J'essaye de voir d'où part le geste d'écriture et de le suivre.
Donc c'est pour ça que vous avez adopté un plateau nu, pas de décor, le texte en premier. J'ai oublié de préciser que vous êtes à la fois le metteur en scène, mais aussi l'interprète principal, et que ce texte, qui charrie beaucoup de thèmes, a aussi peut-être comme questionnement principiel, je dirais, la métaphysique, l'interrogation sur Dieu.
Le Pasolini, c'est l'Italie des années 50, 60, donc le catholicisme est là partout. La question de la présence ou de l'absence de Dieu chez Pasolini est une question centrale. Pasolini est cet homme qui fait l'Évangile selon saint Matthieu, c'est-à-dire le plus beau film qu'on ait peut-être fait au monde sur la figure du Christ, et puis qui en même temps est rejeté par l'Église catholique pour son homosexualité, etc. Donc c'est une figure de paradoxe, et dans la pièce, il y a effectivement notamment à un moment... il réécrit un autre père qui est aux cieux, il le détourne complètement, il l'emmène complètement ailleurs, et il y a dans la figure du père effectivement ce désir de croire et puis cette impossibilité de croire à la fois, ce déchirement là. Pasolini étant lui-même une figure qui s'est toujours vue comme une figure christique, donc on a aussi travaillé là-dessus dans la mise en scène, c'est-à-dire que ce père qui est un grand industriel est aussi un fils et s'adresse aussi à son père qui est aux cieux. Donc il y a quelque chose comme ça, voilà, sur Pasolini, des emboîtements successifs et constants. Et effectivement, sur la question de la métaphysique, c'est ce que j'aime chez Pasolini, c'est-à-dire que toutes les questions sont ouvertes, aucune réponse n'est donnée, et finalement, à la fin de la représentation, il nous laisse face à nous-mêmes, parce qu'il a ouvert une série de gouffres dans lesquels il nous invite finalement à nous noyer avec lui.
Vous avez été celui qui, en France, avait introduit l'œuvre théâtrale de Pasolini. Depuis, Arnaud Meunier vous a suivi. Mais ils sont très rares, les metteurs en scène, qui prennent au sérieux l'œuvre théâtrale de Pasolini. Pourquoi? Et allez-vous continuer?
Alors, pourquoi y a si peu de textes de Pasolini de théâtre monté? Je pense que ça fait peur. Ce sont des textes qui font peur.
Pourtant, ça fait sale comble, hein.
Ben oui, mais donc à tort, ça doit faire peur à certains producteurs aussi. Je sais pas. Moi, je comprends pas que ça soit pas plus monté. Après, est-ce que je vais continuer? J'ai monté 5 des 6 tragédies. Donc, il y a Orgie que je n'ai pas encore monté. Donc, je pense que je vais boucler la boucle à un moment donné. Je vais monter Orgie. Et après, il y aurait des très belles choses aussi à faire à partir du roman Théorème ou de cette grande somme aussi qui est Petrolio, qui est le dernier roman inachevé de Pasolini. Donc, il y a encore de quoi explorer à l'intérieur de l'œuvre de Pasolini.
Vive Pasolini, et vous pouvez l'écouter en ce moment même, donc au Théâtre de la Colline, à Fabulation. On écoute Camille, tout dit.
J'ai tout dit, tout dit, j'ai terminé ma phrase, tout dit, j'ai tout dit, c'est gravé dans le marbre, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu veux que l'on se parle, tout dit, oh ma sœur Hildegarde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, des oiseaux dans les arbres, tout dit, j'ai, tout dit, j'ai fui à la hussarde, tout dit, j'ai tout dit, et les rats m'ont suivi, tout dit, eh, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu as peur pour ma vie, tout dit, oh ma sœur Hildegarde, tout dit, je, tout dit, suis, le vent, tout dit, bruit, tout dit, de la pluie dans les arbres, tout dit, j'ai tout dit, j'ai rompu le charme, tout dit, j'ai tout. Maintenant je vous regarde, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu veux sécher mes larmes, tout dit, oh ma sœur Hildegarde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, du vent dans les arbres, tout dit, eh, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu donnes un jour ton cœur, tout dit. Oh, ma sœur, prends garde, tout dit, tout dit, tout dit. Tout dit, tout dit, pas, tout dit, tout, tout dit, tout dit, où tu mourras d'ennui.
Bonsoir, marhaba, merci d'être venus si nombreux pour écouter mes modestes poèmes. Ce soir, j'ai choisi un poème pour vous qui s'intitule « Revanche ». Intiqam. Ahyana, atamanna an ubariz al-shakhs alladhi qatala walidi. فشردني في بلاد الناس الضيقة فإذا قتلني يكون قد ارتحت أما إذا تمكنت منه أكون قد انتقمت لكن.
Nous venons d'entendre le début de votre spectacle Les Optimistes, Théâtre Majaz, Lorraine Houda Hussein et Ido Shaked. C'est en effet ce poète qui vient inaugurer cette session de théâtre, le poète Aroidouane, et je vais dire la traduction de ce qu'il vient de dire. « Parfois, j'ai envie d'inviter en duel celui qui a tué mon père et démoli ma maison et rendu réfugié dans ce pays étroit. S'il me tue, je gagnerai la tranquillité, et si je le tue, voilà que j'aurai ma revanche. » Alors vous êtes une jeune compagnie, mais vous êtes déjà fait connaître avec un spectacle il y a quelques années qui s'intitulait Croisade. Vous avez une manière très particulière et très passionnante de travailler, parce que vous faites du théâtre à la croisée du documentaire, de la réflexion politique, mais aussi de la poésie. Donc on n'est pas très loin non plus de Pier Paolo Pasolini. Comment avez-vous procédé pour inventer cette histoire qui repose sur des bases bien concrète, bien réelle et bien mémorielle. Lorraine.
Alors ça a commencé, on s'est retrouvés, Ido et moi, à Saint-Jean-d'Acre, en Israël-Palestine, qui est une ville quand même très très particulière, pendant 2 mois, pour une résidence d'écriture à la recherche de notre prochain spectacle. On sentait bien qu'il était déjà là, mais qu'il fallait qu'on dépoussière un peu quelque chose, qu'on parte comme ça à travers la pierre et qu'on enlève le surplus pour le trouver. Et on s'est retrouvés tous les deux dans une maison très ancienne à l'intérieur de la ville vieille de Saint-Jean-d'Acre. Et ça a commencé très simplement. On avait plein de livres avec nous, on a beaucoup lu. Et donc on parlait de nos lectures, tout ça, et un jour, comme un peu comme deux enfants finalement, on s'est dit « et s'il y avait ce personnage-là qui arrivait dans une maison ?» C'est parti avec l'idée d'une maison en fait. Donc cette maison-là, à Yaffa, de 1948 jusqu'à nos jours, et à partir donc de cette envie de maison, ce que ça voulait dire pour nous une maison, on a construit un squelette d'écriture qui a été un peu écrit comme... En même temps comme un roman, en même temps comme un scénario, il y avait des formes très très différentes comme ça. Et ce squelette d'écriture, on l'a mis à l'épreuve de la réalité géopolitique, sociale, culturelle de l'époque. Donc là, il y a eu toute la partie recherche qui s'est passée. Donc beaucoup de documentaires, beaucoup de lectures, beaucoup de rencontres aussi avec des habitants de Yaffa, des personnes âgées, des personnes plus jeunes. Et là, on s'est rendu compte que finalement, ce qu'on croyait être complètement invraisemblable était complètement possible. Et il nous disait, mais non, bien sûr, vous pouvez dire ça, vous pouvez aller plus loin. Et que le champ d'imagination, et même, je dirais, notre devoir d'imagination, était infini. Voilà, ça s'est passé à peu près comme ça. Après, il y a eu la période où on met ce squelette d'écriture à l'épreuve du plateau. Donc, Ido, qui met en scène, construit des improvisations à contrainte.
Ça veut dire quoi?
Alors, ça veut dire que déjà, on ne parle pas les mêmes langues, donc au plateau.
Vous avez 3 langues.
Ouais. Au plateau, c'est
français, hébreu, arabe.
Et arabe, voilà. Mais au plateau, on s'interdit l'anglais. Donc, on doit improviser ensemble, alors qu'on ne parle pas forcément tous les mêmes langues. Donc, du coup, on se retrouve dans la réalité de nos personnages, qui eux ne parlent pas les mêmes langues.
Et tous les membres de votre troupe sont des professionnels du théâtre.
Tout à fait. Tout à fait. On vient d'écoles différentes, on vient de pays différents aussi, on n'habite pas aux mêmes endroits. Mais en tout cas, on partage un théâtre qui est basé beaucoup sur le corps. On vient par exemple, nous, de Jacques Lecoq. Donc l'improvisation, c'est quand même notre façon de travailler. Et après, moi, je récupère cette matière-là et on redialogue tout ça avec Ido à la table.
Alors, est-ce que le métissage des cultures, Ido, produit quelque chose de particulier? Déjà, il y a les trois langues utilisées, il y a les histoires que vous choisissez, qui sont inscrites dans l'actualité la plus brûlante. Et puis, il y a cette espèce d'utopie théâtrale qui a été inventée il y a plus de 40 ans par Ariane Mouchkine. Mais vous êtes peut-être des arrière-petits-enfants de Mouchkine.
Oui, alors je pense d'abord que, effectivement, ce qu'on fait, cette idée de travailler avec des artistes qui viennent d'Israël, de Palestine, du Liban, du Maroc, de l'Iran, n'est pas un projet humanitaire. On travaille pas la paix ensemble, on fait du théâtre. Donc effectivement, c'est des
professionnels.
C'est
peut-être une manière de faire avancer le dialogue pour la paix aussi.
Peut-être effectivement, mais ce n'est pas le but. Je veux dire, nous, d'ailleurs, entre nous, on parle pas de la paix. La paix, surtout aujourd'hui, est devenue un mot qu'on utilise comme ça, qui ne sert absolument à rien. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire du théâtre ensemble. Et donc, effectivement, il y a quelque chose dans ce mélange de cultures, des langues, des langages, de façon d'approcher le plateau qui est intéressant, qui, je trouve, enrichit vraiment notre travail. Donc si c'était pas le cas, le fait qu'il y a deux Palestiniens et un Israélien sur le plateau ne suffit absolument pas pour faire un travail théâtral. Oui, peut-être pour des projets autre, mais cela n'est absolument pas ce qu'on fait. Et donc il y a vraiment pour moi quelque chose dans le travail des langues, effectivement l'hébreu, l'arabe et le français, qui est intéressant, surtout quand on vient raconter des moments clés comme ça de notre histoire à nous tous, en fait. On a l'impression qu'on part de quelque chose de très loin, mais finalement, toutes ces histoires-là concernent d'abord historiquement la France aussi, sur l'Europe, le regard de l'Europe sur ce qu'on appelle l'Orient, qui n'existait pas, hein. L'orientalisme que la France a pu avoir à l'égard de la Palestine, d'Israël, de toute cette région, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe en Syrie, c'est des conséquences d'une politique européenne, donc on veut parler de ça aussi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est regarder les systèmes, donc on regarde les lois, on regarde comment les lois sont conçues, on regarde les décisions de l'ONU, mais il y a une urgence comme ça de communication qu'on met en œuvre qui fait que la mise en scène est très immédiate. Ça veut dire qu'il y a une volonté de communiquer. Je pense que c'est la première chose qu'on essaye de faire, communiquer déjà une réalité et deuxièmement communiquer et ces langues-là, donc leur faire apparaître réellement dans l'espace théâtral.
Alors comment, dans votre projet théâtral, la mémoire peut se réactiver grâce à l'écriture de plateau? Parce que ce que vous faites, c'est quand même dire ce qui s'est passé. Vous parliez tout à l'heure d'une maison, les habitants de cette maison ont été expulsés de cette maison. Ensuite, cette maison a été habitée par des gens qui ne voulaient pas savoir et qui de bonne foi ont occupé cette maison sans essayer de réfléchir à qui étaient les précédents habitants. Oui. Tout ça forme des stratifications de négation d'une mémoire collective. Et j'ai l'impression aussi que votre théâtre veut essayer de faire exploser ces niveaux d'oubli.
Je pense qu'on fait, nous on dit qu'on fait des attentats de la mémoire, attentat dans la mémoire. Ça veut dire qu'on essaye, nous, effectivement, je pense que notre résistance à nous, par rapport à une politique qui est très présente aujourd'hui et qui devient de pire en pire, je pense, dans la région en tout cas, et c'est effectivement re-regarder le passé.
Qui est dictée par la haine et la peur.
Effectivement, et par les murs. Je pense que le spectacle, il y a une maison sans mur, il y a aussi, et il n'y a pas de mur dans ce spectacle en général. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de coulisses, il n'y a qu'un espace ouvert. Et donc, il y a une envie de briser ces murs-là. Et je pense que la résistance passe d'abord, notre résistance, notre révolution, si on peut parler de révolution par rapport à notre travail, c'est d'abord la recherche, et puis briser ces histoires qu'on nous raconte depuis 60 ans, par rapport à la Terre promise, par rapport à, pour moi, j'ai en tant qu'Israélien, un peuple sans terre, un terre sans peuple, à une terre sans peuple. Bon, il y avait un peuple là-bas avant, mais en même temps, ce regard qu'on peut entendre ici en France, je pense, un peu de noir et blanc, très manichéen par rapport à la réalité, n'est pas juste non plus. Et c'est là où le théâtre peut intervenir. C'est-à-dire, ces gens-là qui occupent une maison, effectivement, et qui ne savent rien de ce qui s'est passé avant, viennent de quelque part. Il y a une raison pour laquelle ils ne sont absolument pas capables de voir l'histoire de l'autre. Donc, tout ça peut être mis en joue par le théâtre. Donc, c'est là, je pense, où opère notre travail et notre travail collectif.
Et puis, il y a la dimension de la réalité, de la fiction. C'est-à-dire que chaque peuple s'invente une fiction qui doit correspondre à la réalité qu'ils vivent. Et ça, votre geste artistique essaye de le restituer.
Oui, complètement.
Y compris avec le film que vous avez tourné.
Oui.
Et qui lui-même est une fiction. Donc, il y a tout un jeu comme ça sur cette construction fictive d'une réalité qu'on doit quand même épouser.
Oui, complètement. Mais en fait, finalement, c'est des personnages qui sont pas des créateurs et qui se retrouvent dans la position où ils créent. Au départ, ils en ont pas forcément très bien conscience. Mais la création grandit, la beauté grandit et l'espoir, du coup, que ça leur donne grandit. Et finalement, il y avait toujours un aller-retour entre ces personnages-là et nous. Quelle ressemblance on avait, en quoi ça nous nourrissait. Et donc, on s'est retrouvés aussi dans la même peau qu'eux pour faire ce petit film qui a en 8 mm, qui est vraiment du 8 mm. On a vraiment joué le jeu. On s'est retrouvés à Yaffa quand même en se disant, on va filmer Yaffa, mais Yaffa des années 50 n'existe plus. Donc, on a dû créer.
Par contre, c'est devenu une ville bobo où
complètement.
Toute l'architecture arabe est colonisée par des grands groupes immobiliers pour gens très riches maintenant.
Oui, c'est un processus de gentrification terrible. Alors, il y a évidemment les aspects du conflit israélo-palestinien qui sont très présents dans Yaffa, mais aussi d'un point de vue social où la communauté juive de Yaffa, à la base, n'est pas une communauté qui est très aisée financièrement. Donc, c'est les deux communautés arabes et juives de Yaffa, plus aux origines, sont complètement lésées. C'est des maisons qui sont achetées à des prix exorbitants, habitées très peu de temps dans l'année. Bon, effectivement, c'est un phénomène qu'on retrouve dans plein de villes du monde. Hein. Mais c'est comme si 1948, à Yaffa, et comme d'autres villes à l'intérieur des frontières d'Israël, 1948, c'est toujours aujourd'hui. Et les conséquences de 1948 et de certaines lois, comme la loi des absents, par exemple, c'est toujours aujourd'hui.
C'est aujourd'hui, et demain, et après-demain, et tous les jours suivants qu'il faut aller voir votre spectacle. Donc, Ido Shaked et Lored Ouda Hussein, c'est au théâtre Gérard Philippe jusqu'au 31 mai. Nous allons écouter Tobias Gesso Jr.
So long, my only friend. I guess we gave it a try. And then I guess we tried again. I don't remember why. Well, nothing's as hard to do as just saying goodbye. Love is in the way, you gotta say, I guess love ain't always right. Then I find out you've gone and met a new man and told him he's the love of your life. How could you, baby? Say that you were mine.
Donc, ce fameux dimanche de pleine lune, j'étais de garde au Chupostel Couperin, a traité chaque patient comme un échelon de ma brillante carrière. Un coup de pompe et hop, ma carte de visite était là pour me donner un coup de fouet. Et je m'entraînais en douce à la sortir. Non mais sans rire. Rien dans les mains, rien dans les poches. Et hop, l'honorable Bristol, entre le médius et l'index. Professeur Gérard Galvan. Bon, allongez-vous là, madame. Voilà, très bien. Et rien que ce mu sur la carte. Hein. Non, mademoiselle, vous avez raison de me l'amener. Hein. C'est sérieux, hein, Panari. C'est votre petit frère? Comment tu t'appelles, mon bonhomme? Et une majuscule à professeur, une majuscule à ce mu. Oui, c'est logique. Pendant que je me penche sur un impétigo, Eliane se pointe avec l'habituel motard du périphérique. Il a son oreille dans sa poche et son bras dans son sac à dos. Chirurgie, Eliane, tout de suite. Et rien que le téléphone hein, sur la carte. Oui, non, pas d'adresse, non, juste le téléphone. Ah, vous prenez bien vos antibiotiques, hein, monsieur machin. Hein. Vous n'arrêtez pas avant la fin, hein, surtout. Hein. Et les diplômes sur la carte, ah, c'est pas mal ça, les diplômes, oui. Eliane, à qui le tour, ma grande? Une crise d'asthme ici, mais le monsieur là-bas attend depuis longtemps. Voilà, j'avais pris les urgences à 9h ce dimanche matin, Fatima avait remplacé Gisèle, Eliane avait pris le relais de Fatima, et en me dirigeant vers le monsieur là-bas, je me demandais si un carton lacère-moi ne serait tout de même pas plus présentable pour la pulpe du doigt qu'un Adventiste 12. Un merdaillon, je vous dis, voilà ce que j'étais. Qu'est-ce qui vous amène, monsieur? Le monsieur n'avait ni âge ni ambition. Je l'avais repéré du coin de l'œil, là, depuis un bon bout de temps. Il avait laissé tout le couloir le doubler. Ce qui l'amenait, il ne se sentait pas très bien. Je me sens pas très bien. Bon, le teint était pâle, la voix neutre, le ton là, le profil bas. Il ne se sentait pas très bien sans aller trop mal. Le genre qui horripilait Eliane. Bah, elle savait trop qu'on le reverrait. Mais bon sang, Galvan, c'est un service d'urgence ici. C'est pas SOS machin, là. Et en me dirigeant vers le monsieur, je me... Et voilà, je me suis trompanté, voilà.
Bon, ben vous étiez live, comme on dit, Olivier Saladin. On comprend pourquoi vous faites un tabac depuis quelque temps, donc au Théâtre de l'Atelier, avec ce texte de Daniel Pénac qui s'intitule « Ancien malade des hôpitaux de Paris ». On dirait vraiment que vous avez été médecin urgentiste.
Oui, non, pas vraiment.
Si, mais vous avez un peu travaillé.
Oui, j'ai travaillé dans un service d'urgence. À un moment donné, je développais les radios dans un hôpital en Allemagne, oui, c'est vrai. Donc j'ai vu un peu comment ça se passait, oui.
Alors dans l'écriture de Pénac, il y a des changements de rythme.
Oui, c'est très musical. Ouais.
Très musical.
Oui, je trouve.
Il y a des personnages qui arrivent, qui débarquent, qui s'en vont, etc. C'est comme une espèce de partition un peu brutalisée à dessein par l'artiste qui est Pénac. Comment vous avez eu l'idée d'interpréter ce texte justement à la façon d'un musicien?
Ben parce que justement, je sais pas, j'ai lu et je me suis dit tiens, c'est théâtral, c'est bien rythmé, plein de personnages, plein de choses. Et puis je trouve que Pénac, des fois, il écrit, il y a des cours de récréation pour l'acteur aussi. On se dit, je me suis des fois.
Des cours de récréation?
Oh, moi j'appelle ça des petits moments où on peut improviser, on peut faire d'autres choses, on peut rajouter des choses, on peut s'emparer du texte. Bon voilà, moi j'aime bien ça.
Ah, ça veut dire que vous inventez du nouveau Pénac chaque soir, alors?
Oh, non, mais non, un tout petit peu. C'est 98%, 9% de Pénac. Moi, j'ai rajouté des petites choses, oui, je trouve que c'était bien.
Alors, Pénac dit ouvertement que ce texte est la traduction autobiographique d'un épisode de sa vie. Est-ce que vous accordez une importance à cette nature documentaire du texte?
Oui, en plus...
Parce que je crois que c'est dehors de votre très grand talent. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui touche énormément les gens.
Oui, probablement.
Parce que vous racontez, on l'a tous vécu et on le vivra sans doute encore demain ou après-demain.
Probablement, oui. C'est précis ce qu'il raconte dans cette succession de symptômes. Daniel n'a pas écrit n'importe quoi. C'est précis. Donc ça, je trouve ça intéressant. J'aime bien les choses très précises, très mécaniques. Moi, j'aime bien ça. Je ne sais pas, ça m'inspire. Et là-dessus, Daniel est fort, quoi, je trouve. Puis c'est aussi ça. Ça parle aussi des paniques professionnelles dans lesquelles beaucoup de gens vivent aussi. Finalement, ce médecin est autant en survie que son patient. Le patient est en train de mourir, mais lui aussi est dans une panique terrible.
Ouais,
on ne sait pas lequel des deux va s'en sortir, quoi.
Et ça aussi, ça continue.
Oui, bah jusqu'à
et
la
même
fin.
Ça augmente. Avec les 35 heures, je ne sais pas comment on va faire aux urgences. Ça ne va pas arranger vos affaires.
Peut-être, oui. Je crois que ça ne va pas s'améliorer. Mais je crois qu'il y a le plaisir aussi de regarder un peu sadique, mais enfin, de regarder un insecte dans une bassine qui est en train de se noyer, quoi. Enfin, ces deux personnages, le malade et le patient, qui ont du mal à s'en sortir.
Tout à l'heure, Lorraine disait qu'elle venait de l'école Lecoq.
Oui.
Vous, Vous venez d'où?
Moi, de...
Enfin, vous venez de chez Deschamps, mais avant
oui.
Deschamps.
Ah ben avant chez Deschamps, j'étais au Théâtre des Deux-Rives à Rouen, chez Alain Bézu et Michel Bézu. Et c'est beaucoup Michel Bézu dans l'école dans laquelle j'étais. Moi, je viens de cette école. Je suis assez fier.
Comment faites-vous pour interpréter cette multiplicité de personnages et incarner la panique qui nous prend?
Quel que soit
le côté... Où nous citons.
Ben parce que je sais pas le texte commençait par il y a des fois dans un texte il y a toujours un mot ou quelque chose qui tout d'un coup est déterminant et il y avait dans ce texte au début du texte je dis j'ai le besoin de raconter ça à quelqu'un donc je pense qu'il y a quelque chose de un fait dans sa vie qui a complètement chamboulé complètement qui a été déterminant dans son existence et cette envie de raconter et l'urgence il y a l'urgence et aussi l'urgence de raconter. Et ça doit être haletant. Et moi, je me suis dit, quand j'ai lu le texte, je me suis dit, ça doit être tiré d'un, comme une flèche. Ça ne doit plus, ça doit être en stationnaire et ne plus bouger, aller atteindre sa cible. C'est un peu comme la chanson de Nougaro. Je pense à cette chanson à bout de souffle là, cette chanson un peu comme un thriller. C'est un thriller médical et ça doit aller vite et ça doit enchaîner dans cette panique terrible de ce médecin qui ne sait pas quoi faire de ce malade qui lui pose tant de problèmes et dont il a pas, il est étudiant en plus, il débarque. Enfin, il a pas tout le savoir de ses patrons, donc comment il va faire pour s'en sortir? Moi, c'est quelque chose qui me touche parce que je trouve qu'il y a plein de gens autour de nous, au-delà de la médecine, on voit les suicides qui peuvent se passer dans certaines entreprises. Là, le burn-out des gens, c'est l'histoire d'un burn-out. Hein. Enfin, il y a ça. Je pense que ça intéresse peut-être aussi les gens. J'espère. Enfin, dans un texte, il y a toujours ce que ça raconte et il y a toujours au-delà, bien sûr. Enfin, j'espère, même si c'est très précis, j'espère que les gens vont...
Bah là, c'est une petite fenêtre sur la réalité sociale d'une espèce de cul-de-sac, quoi.
Oui, probablement.
Qu'on a tous connu.
Oui, oui.
Alors, on ne va pas raconter la fin, non. Ni la chute.
Non, il ne faut pas.
Parce qu'il y a plein d'accidents, oui. Dans tous les sens du terme, oui. Et de métaphores à l'intérieur de ce texte qui est un petit bijou. Oui. Mais peut-être qu'on peut se quitter avec un dernier extrait qui ne serait pas la fin, que je
alors,
vous laisse choisir.
Je continue un petit peu. L'oncle teint était pâle, la voix neutre, le ton là, le profil bas. Il ne se sentait pas très bien sans aller trop mal. Le genre qui horripilait Eliane, elle savait trop qu'on le reverrait. Mais bon sang Galvan, c'est un service d'urgence ici, c'est pas SOS machin. Et en penchant sur le monsieur, j'ai glissé, Eliane, son urgence c'est ta douceur, il a besoin de maman. Pas très bien, voyons. Cela. Retroussez votre manche. Il retrousse, pendant que son pouls bat d'un rythme pépère sous la pulpe de mon doigt. L'asthmatique du banc d'en face vire à l'indigo. Excusez-moi, la plupart des asthmatiques, eux, ont une mère. Ça vient de là, hein. L'asthme est une vraie maman. Bon, ah, toujours à propos de pulpe, veillez au relief de l'impression. Et je dis bien l'impression, hein. Une carte gravée, un palisse, hein. Ni un de ces cartons en boutique qui veut donner le change. Non, gravure. Et quand j'en ai parlé à Françoise, elle a levé les yeux au ciel, tellement ça allait de soi. Après l'asthmatique, on a eu droit à un délirium pittoresque, avec chapelet de vérité tonitruante, pas si conne d'ailleurs. On suivit toutes les urgences prioritaires que peut vous amener une nuit de pleine lune quand on s'imagine avoir déjà traité les urgences absolues. Puis, vers 2h du matin, la source s'est tarie. Le couloir était presque vide. Ça sentait bon la pause café. C'est le moment que le monsieur là-bas a choisi pour s'effondrer.
Docteur Olivier Saladin, je me sens pas bien. Ben merci à tous. Donc c'est au Théâtre de l'Atelier jusqu'au 13 juin. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour sa programmation musicale. Merci à Pauline Laverdure qui était à la technique. Marie-Hélène Fauquet, comme chaque semaine, a réalisé cette émission. Et Léla Kourous-Licois l'a préparée. Après le journal de minuit, vous retrouverez Nathalie Piollet pour son émission « L'album de minuit ».